Et maintenant, on retrouve Thomas Bovino pour sa chronique sur le monde d'Internet qui aujourd'hui va nous parler de l'IA.
En effet Thomas, je voulais faire un retour sur toutes les annonces des dernières semaines parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup. Et en profiter pour parler du dernier rapport international de sécurité de l'intelligence artificielle. Il faut dire qu'entre les discussions sur le budget et l'arrivée de Trump au pouvoir, le secteur de l'IA en a profité pour faire des annonces en espérant recevoir des financements. Même si ça n'a pas toujours marché et on peut parler de Lucie, l'intelligence artificielle française mise en bêta ouverte qui proposait des recettes de cuisine à base d'œufs de vache. Mais à côté, on trouve de grandes réussites. Certains ici ont dû tester DeepSeek, l'IA chinoise, qui a déjà pris la réputation d'être au niveau de ChatGPT. ChatGPT et OpenAI qui seraient en discussion pour un rachat éventuel par Elon Musk, après les annonces de Trump du plan Stargate qui financerait près de 500 milliards de dollars de développement de l'IA. En France aussi, au sommet de l'IA à Paris, Emmanuel Macron parle de 109 milliards de financement privé. On parle également d'une alliance France-Inde-Chine pour le développement des IA. Enfin bref, tout va trop vite.
Justement, tu parles de Elon Musk par rapport à ChatGPT. Il a fait une offre de 97 milliards, il me semble. Est-ce que tu penses que ça va jouer un rôle pour le secteur ?
Je pense que ça peut monter la valeur en bourse, que ce soit d'OpenAI ou des entreprises d'Elon Musk. Mais je ne suis pas sûr que ça arrivera à terme.
Du coup, est-ce qu'on parle plutôt d'un coup de com' ou est-ce que c'était vraiment une intention de vouloir racheter OpenAI ?
Je pense que c'est un peu des deux de la part d'Elon Musk. C'est un coup de poker, en fait. Il se dit, si je fais ça, ça sera un coup de com' quoi qu'il arrive. Et avec un peu de chance, je rachète OpenAI parce que du coup, c'est moi qui m'a dirigé tout le secteur de l'IA aux États-Unis.
Du coup, la question se pose de savoir si, comme tout va trop vite, est-ce que tout ne va pas trop loin ?
Exactement, puisqu'aujourd'hui, les IA sont qualifiées de boîtes noires. Non pas comme les avions, mais plutôt parce qu'on n'y voit rien à l'intérieur. Aujourd'hui, OpenAI ne comprend qu'à 26% comment marche ChatGPT. D'après le dernier rapport, le 3 février dernier, c'était il y a 10 jours. L'IA est tellement développée qu'elle devient incompréhensible dans son code même. De plus, les seuls à être capables de faire des tests de sécurité des IA, c'est les entreprises elles-mêmes. Le métier est tellement prisé aujourd'hui que c'est plus intéressant d'aller bosser dans le privé pour développer des IA que de rejoindre des organisations gouvernementales pas à jour pour tenter de percer le fonctionnement d'une IA de l'extérieur. Et la course au développement rapporte tellement d'argent qu'il y a sûrement déjà eu des alertes de sécurité qui n'ont pas été révélées au grand public.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi des alertes de sécurité ?
Déjà, il faut savoir que les spécialistes ne sont pas d'accord sur les dangers de l'IA. Même parmi la centaine d'experts chargés de réaliser le rapport intergouvernemental sur la sécurité de l'IA, mais il ressort trois grands types de risques. En premier, la désinformation et le cyberharcèlement. En second, l'aide à la création de recettes d'armes biologiques pour les terroristes, même si on sait que l'IA aussi bosse à l'opposé dans la création de médicaments. Et en troisième, le coût environnemental et social. La perte d'emploi, l'augmentation des immenses data centers. Le rapport apporte une conclusion finalement implacable. On n'a pas à avoir peur des IA, mais on peut avoir peur de ceux qui s'en servent.
Merci beaucoup Thomas pour toutes ces explications. Et pendant ce temps, une toute autre arène s'apprête à avoir s'affronter les meilleurs combattants. Mais cette fois, ce sont des manettes qui s'entrechoquent. Ce week-end se déroule le Genesis, l'un des plus grands tournois de jeux de combat au monde. Thomas, vous nous en parlez plus en détail.
Bienvenue à San Jose, en Californie, pour le Genesis X2. La 11e édition qui se déroule depuis 2009 dans un immense hall sur 3 jours, où on retrouve cette année près de 3200 joueurs pour s'affronter sur 19 jeux différents, principalement des jeux de combat.
Mais c'est quoi un jeu de combat ?
Déjà, contrairement à la première idée, c'est différent d'un jeu de guerre. Ce n'est pas un jeu où on joue un militaire sur un champ de bataille. Là, nous sommes plutôt dans le cadre d'affrontements 1 contre 1, souvent représentés par les arts martiaux, dont les principaux représentants sont Street Fighter ou Tekken. On retrouve également des jeux d'univers manga, comme Guilty Gear, Grand Blue, Rival of Fighter. Mais le jeu qui rassemble le plus d'inscrits reste la saga Super Smash Bros. Le jeu de Nintendo, de par sa version GameCube, Super Smash Bros. Melee et sa version Switch, Super Smash Bros. Ultimate, rassemble à eux seuls plus de 1000 inscrits chacun.
Et parmi ces inscrits, on ne retrouve que des Américains ?
Bien sûr que non, même si le continent nord-américain est largement majoritaire. En plus des Américains, on retrouve des Mexicains, en grand nombre, et des Canadiens. Dont un pour l'anecdote qui est venu pour jouer à Dance Dance Revolution. Vous voyez le jeu sur Wii avec le tapis électronique là ?
Oui, oui.
Et bah, y a un tournoi où il y a 23 inscrits qui vont s'affronter en 1 contre 1 pour faire le meilleur score. Voilà. On retrouve une grosse délégation de Japonais aussi, qui ont fait le déplacement. Et en Europe, de ce que j'ai vu, c'est les Français et les Suédois qui sont plus venus. Rien que sur Super Smash Bros. Ultimate, on a une dizaine de Français répartis dans les 128 têtes de série.
Pourtant, le monde du jeu vidéo n'est pas dans sa meilleure forme. Hier, c'était la première grève en France dans le secteur du jeu vidéo.
En vrai, il y a déjà eu des grèves dans les studios. Mais c'est la première grève nationale annoncée par les syndicats des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Des rassemblements ont même eu lieu ce 13 février à Paris, Bordeaux, Montpellier et même Lyon. Ce sont principalement les développeurs de jeux vidéo qui sont montés au créneau.
Et quelles sont les revendications des grévistes ?
Le principal argument vient des licenciements. La forte croissance pendant le Covid a fait que beaucoup de studios se sont mis à embaucher. Dans le monde, on compte plus de 11 000 licenciements en 2024. Et en France, des studios comme Dontnod ont vu leur effectif réduit de 70 employés en décembre dernier. Mais il n'y a pas que ça. Les syndicats réclament une hausse des considérations des employés. Des syndicats de Ubisoft expliquaient à France Inter que la fabrication de jeux vidéo, c'est souvent un métier passion. Et les boîtes en profitent pour proposer des salaires plus bas que le niveau d'études et poussent à faire des heures supplémentaires en réduisant les délais de production. Aucun développeur ne veut que le jeu sur lequel il travaille soit nul. Mais les directions prennent des décisions qui poussent à ça et à ce que tous les jeux se ressemblent.
Moi, j'avais une question, Thomas. Tu parlais de l'IA tout à l'heure. On voit qu'il y a de nombreuses grèves dans le monde cinématographique, notamment à Hollywood, contre cette IA pour les doubleurs. Est-ce que tu penses aussi qu'on va avoir prochainement des grèves dans le monde du jeu vidéo par l'utilisation de l'IA, que ce soit pour le code ou aussi le doublage ?
Bah, tous les métiers qui sont plus ou moins liés à l'image ou au son peuvent avoir des grèves. Aujourd'hui, je pense que même dans le milieu du jeu vidéo, ça peut être celui qui va être le plus impacté. Parce que c'est celui où les travailleurs sont plus habitués à l'IA. Et donc à tout moment, quelqu'un peut monter, surtout avec tout ce qui est jeu indépendant, où c'est une personne dans son garage qui monte son jeu. S'il monte son jeu à l'aide d'IA, oui, ça va pas forcément avoir bonne réputation. Mais si c'est bien fait, il y aura des joueurs, quoi.
Mais est-ce que c'est pas la cadence des sorties qui fait aussi qu'il y a beaucoup de grèves et de revendications ?
Ah bah c'est sûr que c'est ça, parce que la cadence des sorties pousse à travailler plus pour faire des jeux moins bons, et les développeurs ils en ont marre de se faire attaquer sur des jeux où bah c'est surtout ceux qui font par exemple Assassin's Creed, les derniers ils étaient pas forcément bien notés. Celui qui sort là apparemment est pas si mal, j'ai envie de voir ce que ça donne, mais ils se plaignaient de bah en fait on a un an pour faire un jeu où t'as un milliard de trucs à faire et t'as juste pas le temps, et du coup le jeu il sort, il est nul. Comme les Pokémon,
ouais,
pareil.
Ça a été le cas avec les Pokémon, là, les derniers, le 8-9.
Le Pokémon Legend of Arceus, en termes de DA, c'est catastrophique. Mais, enfin, pas de DA, d'image, c'est ouais. Catastrophique. Mais c'est que il doit sortir pour la fin d'année, donc il sortira pour la fin d'année.
Bah, c'est pour ça que d'ailleurs le Pokémon 10 a été annoncé pas cette année, mais l'année prochaine. Il n'y aura pas de jeu en 2025, de jeu principal de Pokémon.
Bah, je pense que Pokémon Legend of Arceus, ça a vraiment fait exploser une bulle un peu dans le milieu, où il y a des studios qui ont commencé à se dire ok, si on sort un jeu pas fini, on va se faire insulter dans tous les sens, parce que c'est ce qui s'est passé. Et ça a commencé à pousser un peu à ce que certains studios rallongent les délais, mais le problème c'est les actionnaires des boîtes. C'est une bulle spéculative, les jeux vidéo, encore en ce moment. Ça commence à se professionnaliser, c'est pas le bon mot, mais ça commence à devenir un peu plus équilibré, mais ça reste une bulle spéculative avec des gens qui investissent énormément pour gagner pas forcément toujours de l'argent.
Alors, il y a toujours eu deux camps sur l'intelligence artificielle, les personnes qui voient ça d'un mauvais œil et les gens qui trouvent que c'est vraiment une innovation qui peut servir dans tous les domaines. Là, pour en revenir sur le jeu vidéo, est-ce que tu penses quand même que ça n'a pas un côté positif dans le sens où il y a quand même beaucoup de jeux qui sont à leur sortie, pas forcément terminés, et qui du coup créent une forte déception, en tout cas chez les joueurs. Moi, j'ai le souvenir, quand Cyberpunk 2077 est sorti, ça a créé une grosse déception parce qu'il y avait énormément de bugs. Est-ce que ce serait pas du coup un peu positif de faire appel à l'intelligence artificielle pour aider au développement du jeu, pour sortir un jeu complètement fini et correct à sa sortie ?
Ah, c'est exactement ça. En fait, il faut que les studios se mettent à utiliser l'IA pour réduire les délais, pour travailler plus vite. Mais comme tout le temps dans l'IA, ça va réduire le nombre d'employés. S'il y a besoin d'aller moins vite pour faire le même travail, si on a besoin d'aller moins vite pour faire le même travail, bah ça va faire virer des employés des boîtes. C'est déjà de quoi se plaindre les revendications.
Ok, merci Thomas.
Mais moi j'avais aussi une question, on parle des délais de tout qui sont toujours plus courts pour les jeux vidéo. Est-ce que c'est pas aussi aux joueurs de, entre guillemets, passer plus de temps ? Parce qu'on les connaît, les joueurs qui vont jouer à un jeu et qui vont pas le finir parce qu'ils veulent jouer au suivant. Parce qu'ils veulent toujours le jeu d'après au lieu de compléter le jeu.
En vrai, je comprends ce que tu veux dire, mais donne-moi un exemple. Parce que dans les exemples des jeux qui reviennent plus ou moins tous les ans, t'as quoi ? T'as FIFA, qui ne change pas le gameplay, donc il n'y a pas tant que ça à travailler.
C'est surtout que FIFA, t'es obligé quasiment de le changer parce que t'as des nouveaux stades à rajouter, Enfin, en termes c'est de gameplay, ça change pas énormément, mais t'as des nouveaux stades à rajouter, les nouveaux maillots à mettre à jour, les équipes aussi qui sont à mettre à jour, et le changement de jeu qui sera total parce que c'est une nouvelle saison, donc qui se cale sur la saison.
Et je pense, mais tout je pense que les revendications, c'est surtout sur les jeux aventure, Assassin's Creed. Oui.
Mais tout le gameplay de FIFA n'est pas à retoucher, en fait. Tu joues de la même façon d'un jeu à l'autre. Ça donc dépend. En fait, c'est un...
Ça dépend parce que c'est pas forcément les mêmes moteurs de jeu.
La rapidité joue, la fonction. Ouais.
Mais dans l'ensemble... D'un point de vue pur développement, t'as pas grand chose à faire. T'as à rajouter des images, t'as à créer des simulations.
Et par contre, il y a un gros travail de modélisation aussi des joueurs et des stades qui, là, pour le coup, demande vraiment un travail qui est quand même assez énorme pour les jeux FIFA.
Ouais, mais ça, du coup, passer d'un an à l'autre, c'est pas ce qui me choque le plus en termes de temps de travail. En autre exemple, on a Assassin's Creed, bien sûr, où ils font des cartes de plus en plus immenses avec de plus en plus de trucs. Là, le dernier, je crois qu'ils ont réduit un peu la carte. Ils ont fait des missions un peu plus poussées scénaristiquement, même si c'est toujours dans les discussions, le point de vue au-dessus de l'épaule qui est fait automatiquement. Mais en fait, ouais, c'est le genre de jeu comme Assassin's Creed qui ont du mal à suivre la cadence.
Ouais.
Mais en réalité, est-ce que ça pose vraiment problème? Parce que on a des Assassin's Creed, on en a depuis forcément plusieurs années, et on a forcément toujours du bon contenu, même s'il y en a qui déplaisent forcément. Mais moi, je prends un exemple, il y a quand même des jeux qui mettent beaucoup de temps à sortir, mais forcément, les joueurs réclament. Mais pour autant, les studios de production ne le sortent pas plus rapidement. Par exemple, je pense évidemment à GTA V, dont le dernier est sorti... GTA 6. Justement, je parle de GTA V, qui est sorti en 2013, si je dis pas de bêtises. 2012, 2013.
C'est ce que j'aurais dit,
Les joueurs n'ont pas arrêté de réclamer la sortie de l'opus d'après, mais c'est pas pour autant qu'ils l'ont sorti plus rapidement et qu'on aura du coup la sortie en fin d'année 2025.
C'est ça. En fait, c'est pas des jeux qui sont faits pour être tous les ans. En fait, tous les jeux qui sont pas faits pour être tous les ans, les studios, ils essayent de s'adapter plus ou moins pour que le jeu soit fini. Mais c'est des jeux comme tous les jeux Nintendo, Pokémon ou les Mario, où il faut en sortir un à peu près différent tous les ans, où tu fais Captain Toad, tu fais Peach, Princess... j'ai plus le nom. Peach, Princess Showdown, etc. Où ils essayent d'en sortir au moins un par an assez gros. C'est ceux-là qui prennent un coup parce que c'est dur à suivre le rythme.
Mais ça, c'est à leur niveau qui s'impose limite de sortir un jeu tous les ans. C'est comme les Call of Duty. C'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'ils reviennent un peu en arrière sur leur décision d'en sortir un tous les ans parce qu'ils arrivent, enfin, ils voient qu'ils n'arrivent pas à suivre la cadence, entre autres.
Pourquoi pas imiter le modèle Elden Ring? Tu sors le jeu, mais après tu fais plusieurs DLC d'un coup.
Oui, c'est aussi possible.
La qualité.
C'est ce que Pokémon a un peu envisagé, mais ils l'ont fait trop rapidement avec les DLC des derniers jeux, où en fait ils sortent les DLC, mais que quelques mois après. Ils prennent pas le temps en fait de le sortir l'année d'après et avoir un DLC qui te dure toute l'année. Comme ça, au lieu d'avoir un an de développement, bah t'as deux ans de développement pour le jeu d'après.
C'est un peu ce qui était le cas avec beaucoup de jeux, comme par exemple les jeux de super-héros, où moi je me souviens que quand les Batman étaient sortis à l'époque, ils avaient rajouté du contenu additionnel qui était vraiment qualitatif pour le coup. Pareil pour les Spider-Man qui sont sortis là récemment, le tout premier, avant de sortir Miles Morales, ils ont rajouté du contenu additionnel sur le premier. Pareil sur Miles Morales et du coup sur Spider-Man 2 aussi, il y a eu du contenu additionnel, ce qui fait aussi repousser la sortie du prochain opus. Donc en soi, ce serait une bonne solution.
J'ai un autre exemple dans ce cas-là, c'est Mario Kart 8 sur Switch, où c'était prévu que la Nintendo Switch sorte il y a un an ou un an et demi, je ne sais plus, quand ils ont commencé à annoncer le DLC de Mario Kart 8. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'arriveraient pas à sortir la Switch 2, qu'ils n'auraient pas tous les jeux sur la Switch 2, donc ils ont tout décalé de longtemps. Ils ont commencé à sortir des DLC sur plein de jeux Nintendo, dont Mario Kart 8 qui a doublé son nombre de circuits, quoi.
Mais c'est comme ça que les jeux qui veulent avoir une temporalité régulière doivent progresser. Parce que s'ils commencent à avoir vraiment un jeu principal chaque année, ou même quasiment chaque 6 mois pour certains Mario, on voit des nouveaux Mario, enfin dans l'univers de Mario arriver tous les 6 mois quasiment, c'est pas tenable.
Ouais.
Si tu prends un autre exemple, Civilization, qui est sorti la semaine dernière, eux, ils veulent faire des vraies différences entre leurs jeux. Donc, ils sortent des DLC, des petits DLC de temps en temps, mais ils bossent sur le jeu d'après. Ils ont une petite équipe qui gère les DLC sur l'ancien jeu, mais vraiment, leur but, c'est le jeu d'après, et s'ils mettent 10 ans à le développer, c'est pas grave.
Bah, ou comme on en a parlé avec... Désolé Thomas. Ou comme on en a parlé l'année dernière, la semaine dernière, avec Kingdom Come Deliverance 2, où ils ont pris 7 ans de développement, mais pour sortir un jeu fini et abouti.
Oui, exactement. Bah, tout comme GTA,
qui... Oui, comme GTA qui...
12 ans à sortir le jeu d'après, mais qui va être un jeu on l'espère fini. Et...
Ah, okay. Parce que si j'étais assis, ça de voir ce que ça donne. Ah,
si là, ils sortent pas un jeu fini abouti, ils vont.
Bon, j'ai confiance. Oui, j'ai confiance. Je pense que ça va le faire.
Alors, il y a un jeu que vous attendez
Fortnite.
Non, j'étais à 6, moi je ne vis que pour ça, je compte les jours avant la sortie. Pour moi, c'est un jeu qui va révolutionner.
Le prochain Touquet aussi, à voir s'ils arrivent à renouveler la licence au bout d'un moment.
Aussi, c'est cool. Aussi, ça serait pas mal. Mais j'étais à 6, forcément, je pense qu'on est unanime là-dessus.
Et un jeu où il n'y a pas eu d'annonce, mais que vous avez envie.
Un Pokémon genre, noir et blanc.
Genre moi,
je veux un remake de Pokémon noir et blanc. Ouais. Moi,
c'est The Witcher 4.
Dans un monde ouvert.
Oh, Red Dead Redemption 3.
Ils vont refaire un God of War aussi.
Red Dead 3, ça serait bien.
Un God of War, ouais.
Un Zelda 3 aussi, avec encore plus de.
Après Tears of the
Kingdom. Ah non, je suis. Non, mais totalement, j'ai oublié, je pense, l'une des meilleures franchises de toute l'histoire du jeu vidéo, The Last of Us 3. Il me faut The Last of Us 3.
Oui.
Sinon, moi, je ne vais pas tenir. Je veux voir ce qui va arriver à Ellie.
On a combien de temps avant que tu craques là?
Mon jeu de cœur, que ça n'arrivera pas, mais j'en rêve, c'est Portal 3.
Ouais, aussi, ouais, Portal, ouais.
Portal,
grosse franchise.
Grosse franchise.
Et des retours de studio, est-ce qu'il y en a eu?
Bah, pas vraiment. Pour l'instant, si on reste chez Ubisoft, c'est parce que les employés n'ont eu aucun retour de la direction qu'ils ont appelé le syndicat pour discuter de la mise en place de la grève.
Très bien. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, messieurs. Et maintenant, il est temps de mettre vos neurones à l'épreuve.
Ouf,
car c'est parti pour le quiz où culture et compétition vont se mélanger. Au programme, vous avez 4 manches thématiques pour tester vos connaissances sur la littérature, la culture geek, le cinéma et la musique. 3 questions par thème, 1 point par bonne réponse. Ensuite, il n'y aura que 2 d'entre vous qui décrocheront leur place en finale. Là, il n'y a plus de droit à l'erreur. Les finalistes, ils vont répondre à des questions alternativement. 3 questions toujours par thème. Et celui qui totalisera le plus de points sera sacré grand gagnant.
Ok.
Et si jamais il y a une égalité à la fin, eh bien, il y a un super tie-break. C'est des questions à mort subite et le premier à marquer quand l'autre trébuche, qui va gagner?
Petite question, qu'est-ce qu'on gagne?
Surprise. Il y a 3 niveaux de difficulté, facile, intermédiaire et difficile.
Parfait.
Est-ce que vous êtes prêts?
Oui,
facile pour lui, c'est déjà le niveau difficile pour nous.
Et on commence par le meilleur thème, la littérature.
Parfait.
Parfait.
Question facile, quel écrivain français est l'auteur des Misérables? Alexis Andoire.
Victor Hugo.
Bien joué, 1 point.
Deuxième question. Dans Harry Potter, comment s'appelle la chouette de Harry?
Edwige.
Bien joué. Je vous la laisse, celle-là.
Le Parfum des Neiges.
Et question difficile pour finir. Quel roman de George Orwell met en scène un régime totalitaire dirigé par Big Brother?
1984.
Bien joué.
Et on enchaîne du coup avec un univers qui va faire vibrer les fans de la pop culture, la culture geek.
Ah ouh.
Niveau facile, dans Super Mario, quel est le nom du frère de Mario?
Luigi.
Bien joué. Je m'apprête à lever la main parce que je sens que je vais me faire voler les
réponses. Intermédiaire. Quel studio de jeux vidéo est à l'origine de The Legend of Zelda?
Nintendo?
Oui.
Question difficile. Dans The Last of Us, comment s'appelle la jeune fille que Joël doit protéger?
Ellie.
Bien joué.
Oui, merci Thomas, merci. Il y a complicité là entre un chroniqueur et...
La triche, il y a pas. Et ben c'est parti, on change d'écran, on en passe à un plus grand. C'est l'heure du cinéma.
Yes.
Niveau facile, quel réalisateur a créé la saga Jurassic Park?
Spielberg, Steven Spielberg.
On peut enlever 0,5 points pour la prononciation, s'il te plaît.
Mais ouais, oui.
Bien joué.
J'ai pas fait allemand LV2.
Question intermédiaire.
Mais il est américain.
C'est vrai qu'il est américain.
Il est américain.
Il est américain.
Dommage. Dans quel film de Christopher Nolan suit-on l'histoire de 3 temporalités entre terre, air et mer pendant la Seconde Guerre mondiale?
Il faut sauver le soldat Ryan.
Non.
Je l'ai pas celle-là.
C'est Dunkerque.
Dunkerque. Je sais. Je me souvenais plus que c'était Christopher Nolan.
La question est tombée à question pour un champion il y a 2 jours.
La chance.
Je suis pas inspiré.
Ah oui.
Question difficile. Quel film a remporté l'Oscar du meilleur film en 2020 devenant le premier long métrage en langue étrangère à obtenir cette récompense?
Everything Everywhere All at Once.
Non.
Est-ce que c'est un film asiatique?
Oui.
Oui, je l'ai.
Parasite?
Mais j'avais juste pas le titre. C'est fou, ça.
Merci, monsieur Dorf. Je peux partager un demi-point, monsieur.
Oui.
Et avant de passer à la finale, on termine cette première manche en beauté avec un peu de mélodie. Question musique. Facile. Quel groupe britannique a composé Bohemian Rhapsody?
Queen.
Bien joué.
Je vais me faire avoir en vitesse.
J'aurais dit les Rolling Stones si j'avais levé la main. Donc...
Bah,
oui, donc pas. Vraiment pas.
C'est fou de pas avoir la réponse.
Niveau intermédiaire, qui chante Like a Virgin en 1984.
1984
George Orwell.
C'est un groupe.
C'est un qui est-ce?
Madonna.
Oui.
Complètement à l'opposé de George Orwell.
Ah bah y a totalement, rien à voir.
Question difficile. Quel est le nom de l'album de Kendrick Lamar qui a remporté le prix Pulitzer en 2018?
Ah, si, je l'ai vu il n'y a pas longtemps.
Oh, j'abandonne.
Dame.
Ouais.
Ah, bien joué.
Yes.
On a les scores. Alexis Andouard, 5.
Alexis
Thomas,
qui a pété la gueule à tout le monde en musique.
2. Ouais. Et Atona Patarin, 5. Désolé Thomas, c'est fini pour vous.
Monsieur Andouard.
Non.
C'est totalement une réplique de Mario en version nulle.
Et c'est la grande finale.
Et c'est parti pour les deux meilleurs.
Moi, Patarin. Je lui laisse les points sur la question musique.
Bah, je te laisserai aucun point.
Ah d'accord.
C'est parti. C'est parti littérature. Quel est le nom du capitaine dans Moby Dick?
Captain Kirk. Dans Moby Dick.
Mais moi, je l'avais pas quand j'ai fait la question.
Je l'ai pas honnêtement.
C'est Achab.
Ah.
Question numéro 2. Quel écrivain a écrit Le meilleur des mondes en 1932?
Oh. Ah, j'ai pas le nom.
Non plus.
Aldous Huxley.
Ok. Vous
connaissez pas Aldous?
Non.
Dans Les Trois Mousquetaires, comment s'appelle le quatrième compagnon qui rejoint Athos, Porthos et Aramis?
D'Artagnan?
Oui.
Oh, j'ai tenté. Oh, oui,
c'est pas...
Culture geek maintenant. Thomas, vous êtes éliminé malheureusement. Dans The Legend of Zelda Ocarina of Time, quelle est la première mélodie apprise par Link?
Le chant des Ponas?
Non.
Je n'aurais pas la réponse.
Berceuse de Zelda.
D'accord.
Deuxième question. Vous étiez plus fort à la première.
Les questions étaient
Un peu
sont
plus relevées là.
Dans Pokémon Rouge et Bleu, quel est le nom du professeur qui donne le premier Pokémon au joueur?
Sorbier?
Non.
Raoult?
Dommage.
Si, je sais, le professeur Shen.
Ouais.
C'est
ouais.
Ça. C'est que des noms d'arbres.
Cadeau.
C'est Shen, Platane, Sorbier.
Quel jeu de combat a popularisé la fameuse phrase Finish him?
Street Fighter?
Non.
Tekken?
Bah,
non.
Mortal Kombat?
Mortal Kombat.
Bah oui, du coup.
Aïe, 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 aïe.
On passe au cinéma pour Antonin Patarin, bien sûr. Quel est le nom du vaisseau spatial dans Alien, le 8e passager?
Ah, j'ai pas vu Alien. Je suis désolé.
J'aurais pas la réponse.
C'était Nostromo. Qui joue le rôle de Tyler Durden dans Fight Club?
Edward Norton.
Non.
Oui. Oui, 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 je l'ai aussi.
Brad Pitt.
Oui.
C'est vrai.
Ah. Non, Edward Norton, il joue l'autre.
Oui.
2-2, c'est équilibré.
Quel est le premier long métrage d'animation produit par Disney?
Alice. Blanche et les Sept Nains.
Alice et les Sept Nains.
Je crois que Alice au Pays des Merveilles n'est même pas un Disney.
Bah non,
je crois pas.
Si,
c'est un Disney.
Il y a un Disney, Alice au Pays des Merveilles.
Je sais pas.
Oui, oui.
Oui.
On passe à la musique.
Le mois en 41.
Ah bon, bah tiens les points.
Quel est le seul artiste à avoir remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale 3 années de suite?
Wow, c'est dur ça.
Est-ce que tu peux nous donner des indices sur...
Je l'aurais pas.
Tupac? T'es un chanteur?
Il est né en Angleterre, au Royaume-Uni. Son nom de naissance? Philippe David Charles.
Phil Collins?
Oui.
Ah, bien joué. Bah, pas évident.
Ensuite, en 1991, quel groupe sort l'album Nevermind, marquant l'histoire du rock?
Nirvana.
Il y a la littérature après, t'inquiète pas.
Non, mais j'aurais pas non plus la littérature.
Quel rappeur américain a popularisé l'album My Beautiful Dark Twisted Fantasy?
Oh.
Drake?
Non. En ce moment, c'est un peu limite de parler de lui.
Ah, Kanye West.
Oui, ouais. Kanye West.
Alors, je voulais pas préciser, mais les thèmes vont revenir deux fois pour plus d'équité.
Ah, ok.
Oui, on passe parce que sinon, la musique, c'est trois points gratuits,
voilà,
pour lui.
Pour ça. Littérature, du coup. Dans 1995, toujours, quel est le nom du leader du parti qui surveille tout?
Big Brother?
Oui. Qui est l'auteur du cycle de fondation?
Ah, Isaac Asimov?
Oui.
Ah, bien joué.
Dans Les Misérables, comment s'appelle l'inspecteur qui poursuit Jean Valjean? Il y a une couleur dans son prénom, si vous voulez. Vous l'avez pas?
Non. Revers?
Javert.
Javert. Oh, Javert, mais...
Tu ne l'avères pas?
Mais je l'avais, mais bon, ça ne veut pas sortir.
Maintenant, Culture Geek. Quel studio a créé The Witcher 3?
Ubisoft?
Non.
Naughty Dog?
Non.
Non, bah, on va peut-être...
Blizzard?
Non.
Bah, c'est pas Nintendo.
Rockstar?
Il y a une couleur pareille dedans, mais en anglais cette fois-ci.
Red Robot?
Il y a Red, ouais, mais il y a un truc.
Ah,
Il y a deux mois avant.
Je l'ai plus.
Moi non plus, je l'ai plus.
CD Projekt Red.
Ah, oui. Project Red, mais j'ai oublié qu'il y avait
CD Projekt Red. Ouais, exact.
Si vous voulez, je fais un rappel des scores.
Oui, vas-y. Oui.
Antonin Patarin, 4. Alexis Andouard, 6.
Ouh. Okay. Il reste deux questions culture geek.
Oui. Dans Half-Life, quel est le nom du héros principal?
J'ai pas le droit. Excusez-moi.
Bah non, mais je l'aurais pas.
Je l'aurais pas non plus.
Steve?
Gordon Freeman.
Gordon Freeman, non! J'ai 80 heures sur le jeu.
Troisième question, dans l'univers de Final Fantasy, ça vous parle? Ça vous parle pas?
Légèrement.
Quel est le nom de l'épée iconique de Cloud Strife?
Allez, je bluffe Excalibur.
Non, mais c'est un des trucs les plus connus.
Oui,
en
oui,
plus.
De la pop culture, forcément.
Moi, j'ai la réponse, mais.
Je suis une fraude. Oui, bah. Je suis une fraude du jeu vidéo. Hein,
je ne l'aurais pas.
Non, moi non plus.
Épée broyeuse.
Okay. Épée broyeuse.
Je le saurai pour la prochaine.
Rappelle des scores 6-4.
Oui, oui, mais t'avais pas besoin de le repasser.
À part si je gagne sur le grand écran.
Là, il reste le cinéma et la musique.
Ouais, bah, ok. Compliqué la musique.
Cinéma. Quel film de Stanley Kubrick met en scène l'ordinateur HAL 9000?
Orange Mécanique?
Non.
Heure? Non, pardon.
À toi. Petit indice, c'est mon année de naissance.
2001.
Ah, je sais. L'espace. 2001, Odyssée de l'espace.
Il l'a eu avant.
Oui.
Dans Le silence des agneaux, quel est le métier de Clarice Starling?
Psychologue?
Non.
Je sais pas, elle est... Ouais, non, bah, j'ai dit psychiatre,
si.
Mais non, elle est botaniste?
Non.
Journaliste?
Non.
Fleuriste?
Non, mais elle va dans la prison. C'est elle qui va dans la prison pour...
Infirmière?
Non, parce qu'elle travaille pour les... Le, pardon?
Le service de renseignement?
Le gouvernement?
Presque.
Le ministère de la Défense?
Presque.
Le FBI?
Ouais.
Ah.
Qui a réalisé Pulp Fiction? Il l'a eu avant.
Stanley Kubrick?
Non.
Oh, bah, Pulp Fiction, non. Je l'ai. Attends, ça va me revenir. C'est avec John Travolta, je le sais. Et ça va me revenir. C'est un des... quand même les réalisateurs les plus connus.
Je l'ai du coup.
Attends, je vais l'avoir.
Mais non, mais je 5, laisse répondre.
4, 3,
ah
2, 1.
Tarantino?
Oui. Ah oui, mais forcément.
Au moment où t'as dit Travolta,
j'ai trop de mémoire.
C'est pas fini.
Bah, il faut que je réponde aux trois questions musique. Hein, avant
Quentin,
lui.
Quentin.
Quel groupe a composé Another Brick in the Wall?
Les Rolling Stones?
Non.
Beatles?
Non, c'est le même style.
Même style.
Ouais, même style de connaissance, je vais dire. De réputation.
Rock anglais?
Oui. Enfin, rock. Ouais,
enfin,
rock
anglais. Groupe anglais.
Anglais.
Pixies?
Non.
Mais
j'ai la musique.
C'est la même première lettre que Pixies.
Pink?
Oui.
Pink Floyd?
Oui.
Ah, parce que Pink et Pink Floyd, ça n'a rien à voir. Hein. deux ambiances différentes.
Oui. Attention. Quelle chanteuse a sorti l'album Lemonade en 2016?
Shakira?
Non.
Britney Spears?
Non.
Taylor Swift?
Non. Beyoncé. C'est américaine, effectivement.
Beyoncé?
Oui.
Ah, bon. Bien joué, monsieur Andoir.
Bien
joué, monsieur Andoir.
Dernière question, quand même.
Ouais,
pour le plaisir.
Allez, pour le plaisir.
Quel compositeur est à l'origine de la musique des films Star Wars et Harry Potter?
Non, il l'avait.
Okay, bon,
John Williams.
Ouais.
Et victoire écrasante. Hein. Ouais. 10 à 6.
Belle performance quand même de Thomas qui en avait plusieurs là sur les sur la deuxième manche.
En finale, non, il aurait été bon.
Mais moi, je me fais bouffer en vitesse. Hein. Je me fais pas bouffer en réponse.
En connaissance.
On fera mieux la prochaine fois.
Alors que moi, je me fais bouffer en connaissance, pas en vitesse.
Merci beaucoup. Bravo à Alexis Andoir,
oui,
pour sa victoire.
Un pot de confiture.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Notre émission est à retrouver chaque semaine sur le site internet adn-actu.fr. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour refaire le point sur la culture. D'ici là, portez-vous bien.